Radio Kapi.
Le journal Pascal Massirika.
À la une ce midi, fermeture des écoles et des marchés de la ville de Beni au Nord Kivu. Ainsi en a décidé le maire de la ville au lendemain de l'explosion des deux bombes artisanales. Le gouvernement congolais réaffirme son engagement à promouvoir l'entrepreneuriat et l'artisanat pour créer une véritable classe moyenne au pays. Déclaration faite ce week-end par le ministre de l'Entrepreneuriat et de PME, Estache Muhanzi Mubembe. Notre invité, c'est Léon Mutijima, 80 ans, qui avait 21 ans en 1960. Il avait participé à la célébration de l'accession du pays à l'indépendance dans les territoires de Walungu au sud Kivu. Madame, messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, toutes les écoles et tous les marchés sont fermés depuis ce lundi matin à Beni. La décision est du maire de cette ville après l'explosion d'hier dimanche des deux bombes artisanales. Selon des sources sécuritaires, cette mesure sera évaluée après 48 heures. Explication à Beni de Martial Papimoukeba.
La fermeture des écoles et des marchés de Beni va durer des jours, du lundi 28 au mardi 29 juin. Les rassemblements des personnes sont également interdits sur toute l'étendue de la ville de Beni. Ces décisions ont été annoncées tôt ce lundi matin à travers les radios locales par les maires de Beni. Tous les habitants sont également priés de se munir de leur carte d'identité partout où ils se trouvent. Selon le commissaire supérieur principal, Muteba Kachale, contacté par Radio Okapi, le couvre-feu décrété dimanche dans la soirée avec effet immédiat reste également en vigueur sur toute l'étendue de la ville. Des mesures prises pour faire face à la situation sécuritaire qui prévaut à Beni après l'explosion dimanche des deux bombes artisanales, l'une dans la paroisse catholique de Boutili et l'autre au quartier Mabakanga. Selon des sources sécuritaires, ces mesures seront évaluées après 48 heures par les services de sécurité, l'armée et la police qui travaillent conjointement avec la MONUSCO pour faire face à cette situation. Les bouclages et les perquisitions dans les différents quartiers de Beni ne sont pas à exclure, signale-t-on. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Kapi.
Nord Kivu encore, le groupe FPP Kabido réitère son souhait de déposer les armes et annonce en même temps la fin des exactions contre les civils au territoire de Lubero. Le leader de ce groupe dénommé Kabido l'a dit hier dimanche en Boisvinois à une délégation conduite par l'administrateur du territoire, le colonel Donan Domba. Ce dernier invite les autres miliciens à faire de même. La société civile locale salue cet engagement et appelle le gouvernement à accélérer le processus de DDRRC pour leur démobilisation et réinsertion communautaire. À Boutembo, grâce à Mzati.
Cette délégation de plus de 50 personnes était constituée des FARDC, de la police, des acteurs de la société civile, des chefs coutumiers et notables, ainsi que des ONG des droits de l'homme. L'administrateur du territoire indique que le chef milicien Kabido a confirmé sa volonté de déposer les armes. Ce chef milicien affirme que son groupe compte environ 870 éléments armés, notamment de fusils et d'armes blanches. À l'issue de cette rencontre, Kabido a appelé tous ces éléments actifs dans les différentes entités du sud et de Lubero à cesser les exactions contre les civils en attendant le lancement du processus DDRC. Le colonel Ndonda Mandongo Dona, qui s'est dit satisfait de cette réaction, appelle tous les autres groupes armés actifs dans la région à adhérer au processus de paix sous peine de subir la traque des forces loyalistes. La même satisfaction est manifestée par les acteurs de la société civile. D'après eux, cet événement marque le début de la restauration de la paix dans la région. Bayre Kekisusu, coordonnateur territorial de la nouvelle société civile, invite ainsi le gouvernement à saisir cette occasion en vue de concrétiser le processus de DDRC. Boutembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
En plus bref, à Lubero, plus de 25 personnes prises en otage par des miliciens de la FPP, ces Kabido, ont été libérées ce week-end, d'après Amani Kinda, un acteur de la société civile dans la région. 15 parmi ces personnes ont été relâchées samedi dernier, moyennant paiement d'une amende individuelle allant de 25 à 100 dollars américains. Les derniers otages ont été libérés gratuitement hier dimanche, quelques heures seulement avant l'arrivée de la délégation de l'administrateur du territoire à l'état-major de ces Maïmaï basé en Boisvinois. Ces personnes, dont deux femmes, ont été enlevées jeudi dernier pour n'avoir pas exécuté les travaux forcés exigés par ces miliciens. En Ituri, pendant ces temps, 6 personnes ont été tuées et plusieurs autres portées disparues au cours des 2 incursions d'hommes armés cette nuit à Manzombe dans les territoires d'Irumu et à Kampa dans celui de Djougou. Selon des sources sécuritaires locales, ces attaques ont été perpétrées par des rebelles ougandais de l'ADF et des miliciens d'un groupe d'autodéfense zaïre. Les FARDC en Ituri disent avoir réussi à libérer 4 civils qui étaient pris en otage par ces malfrats. À Bounia, Martial Kizabiamungu.
Des sources sécuritaires rapportent que des présumés ADF ont attaqué la localité de Manzombe sur l'axe Komandaluna sur la route nationale numéro 4 dans la mi-journée. Leur objectif était de se ravitailler en vivres et médicaments. Ces rebelles se sont mis à tirer plusieurs coups de balles, créant la panique parmi la population qui courait dans toutes les directions. Dans ces mouvements, selon des activistes des droits de l'homme, 5 civils ont été atteints par balles et sont morts sur les champs. Avant de se retirer, ces présumés ADF ont incendié une dizaine de maisons. Les porte-parole de l'armée en Ituri indiquent que 4 personnes parmi les otages ont été libérées de mains de ces rebelles après l'intervention des FARDC. Du côté de Djougou, dimanche vers 15h locale, des miliciens du groupe d'autodéfense Zaïre ont tendu une embuscade à une vingtaine de civils à Kwanga alors qu'ils se rendaient au marché hebdomadaire de Pimbo. Selon les présidents des jeunes de cette entité, ces assaillants ont tué une personne et ont blessé des autres. À ce stade, 6 personnes sont portées disparues, indiquent des sources locales. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi le coup d'envoi ce lundi à Lubumbashi du conclave pour la paix organisé par l'organe délibérant du Haut-Katanga en collaboration avec le gouvernement provincial. Objectif affiché, mettre à nu les différents éléments qui créent des tensions et des divisions en vue de trouver des voies et moyens d'y mettre un terme afin de favoriser le développement. À Lubumbashi, une correspondance de Jean Gandou.
La province du Haut-Katanga, qui est essentiellement minière, a en son sein une dizaine de tribus, en dehors des communautés venues d'autres provinces attirées par l'exploitation minière. Cependant, la recherche du mieux-être engendre des tensions entre communautés, rendant ainsi la cohabitation difficile, a indiqué Jacques Kiabula, le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Ce dernier espère que les résolutions qui seront prises à l'issue de ce conclave vont contribuer à renforcer l'unité et partant le développement de la province. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a pour sa part indiqué que l'insécurité qui prévaut dans la province est hors norme, non obstant tous les moyens mobilisés par l'autorité provinciale. Pour Kyungu Akumwanza, cette insécurité touche toutes les catégories de la population et ne choisit pas des tribus. Voilà pourquoi il a dénoncé la manipulation des jeunes et l'activisme des miliciens qui n'ont qu'un seul objectif, déstabiliser la province. Il a invité les uns et les autres à cultiver la paix et la cohabitation pacifique et à bannir le séparatisme, le tribalisme qui ne favorise pas le développement de la province. D'où la nécessité de la mobilisation et de l'implication de tous pour y faire face. A noter que cette rencontre qui réunit plusieurs notabilités de la province a aligne plusieurs orateurs parmi lesquels les professeurs d'université, les membres de la société civile, les chefs coutumiers et autres. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
On en vient maintenant à l'économie. Le gouvernement congolais réaffirme son engagement à promouvoir l'entrepreneuriat et l'artisanat pour créer une véritable classe moyenne. Déclaration faite par le ministre de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises. C'était en marge de la journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises. Estache Mouhanzimoubembe affirme qu'il est impérieux d'encadrer les jeunes, les femmes, mais aussi les hommes dans les confins du pays qui se battent pour une prise en charge des communautés. Reportage de Billy Van Lutumba.
En réalité, la population souffre, surtout cette couche de PME. Nous sommes vraiment par terre.
Dans une des émissions Okapi Service Radio Okapi, quant à l'impact de Covid sur les PME, ce petit entrepreneur ne cache pas son désarroi du fait du manque de financement des micro, petites et moyennes entreprises par l'État congolais. Cependant, en sa qualité de spécialiste en accompagnement et encadrement des entrepreneurs, Maître Kevin Shimata du cabinet Waram DRC déconseille de définir son entrepreneuriat sur des dons de l'État.
L'État doit mettre en place les cadres, inciter les banques à pouvoir donner des crédits à taux préférentiel aux entrepreneurs, inciter les autres financements provenant des autres structures. L'État ne peut être là que comme un régulateur.
Pour Eustache Mouanzi, ministre des PME, le gouvernement a déjà levé une option quant à ce.
Le gouvernement a adopté le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, dont la stratégie s'articule autour de 3 objectifs. C comme capacité, C comme crédit et C comme contrat.
Et que va faire ce programme au profit des micro, petites et moyennes entreprises?
Mettre en place une politique de renforcement des capacités humaines humaine et de promotion d'esprit d'entreprise, de faciliter l'accès au crédit par des accompagnements financiers plus favorables et diversifiés, et enfin de faciliter l'accès au marché tant public que privé.
Signalons qu'à marge de cette journée, le ministre Eustache Mouanzi est descendu sur quelques sites regroupant quelques start-up et acteurs de micro, petites et moyennes entreprises avec qui il s'est entretenu.
Merci Billy Van Lutumba pour ces précisions. Et puis, dans environ une semaine, la RDC devrait être fixée sur son admission comme membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Cette précision a été faite ce week-end à Goma, au Nord Kivu, par le secrétaire général de cette organisation qui regroupe en son sein 6 pays de l'Est avec la RDC. Pour mémoire, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a lancé à Goma les travaux de vérification du dossier d'adhésion. À Goma, Bernard Nyangi.
Le secrétaire général de l'Eastern African Community a séjourné ce week-end à Goma. Le docteur Peter Matuki, à la tête d'une forte délégation, est venu assister au lancement des travaux de vérification de la demande d'admission de la RDC à cette organisation régionale. C'est en réponse à la cour des principes donnée par les 6 présidents des pays membres lors de leur sommet du 27 février dernier, conformément à la procédure EAC pour l'admission de nouveaux membres. Il ajoute que le président congolais Félix Tshisekedi a donné son accord pour le lancement des travaux de vérification en raison des nombreux bénéfices attirés de cette adhésion. Dr Peter Matuki.
Ensemble, nous deviendrons forts économiquement. Le peuple congolais bénéficiera des facilités de voyager dans d'autres pays membres sans visa, sans passeport. La RDC va nommer 9 membres du Parlement de l'EAC. Elle va aussi nommer les membres du corps des juges de la Cour de justice de l'EAC. Aussi, le mouvement depuis les ports de Dar es Salaam ou Mombasa sera facilité.
Après son adhésion, la RDC sera le 7e membre de l'EAC, joignant le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et le Kenya. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Depuis la fermeture des frontières entre l'Angola et la RDC à cause de la pandémie du coronavirus, les prix des plusieurs produits de première nécessité ont pris de l'ascenseur à Popokabaka, en territoire de Kwango. L'administrateur de ce territoire de la province du Kwango, Jean-Fidèle Ipama, qui alerte, évoque aussi la question des routes de dessertes agricoles comme l'une des raisons de l'augmentation des prix. Pour lui, cette situation rend très difficile les conditions de vie de la population. À Bandunduville, Irène Mboma.
Cette hausse des prix de plusieurs produits de première nécessité manufacturés observés sur les marchés de Popokabaka est due premièrement au manque de routes de dessertes agricoles qui rend difficile les échanges commerciaux entre ces territoires voisins d'Angola et la ville de Kinshasa. Et ensuite, cela se justifie par la fermeture des frontières par l'Angola à cause de la pandémie à COVID-19. L'administrateur du dit territoire, Jean-Fidèle Ipama, joint au téléphone, explique-moi.
Le Congo a une grande frontière avec la Angola. Et c'est là où peut-être on avait un peu de ravitaillement en produits de première nécessité, de produits manufacturés. L'Angola est dans le confinement et on ne peut plus rien faire, mais nous nous contentons de notre république à partir de Kinshasa. Les routes de recettes agricoles sont abandonnées pour atteindre Kinshasa. C'est ça ce qui fait la hausse des prix. Parce que le commerçant, quand il vient de Kinshasa, avec difficulté, il impose son prix. Nous sommes en train de tempérer parce que si on fait face à la rigueur de l'Europe, alors ça sera difficile.
Jean-Fidèle Ipama indique que cet état de choses rend très difficile la vie des paisibles citoyens de son territoire qui ne savent pas à quel sein se vouer. Il les invite à se prendre en charge en entretenant les routes afin d'essayer de débloquer tant soit peu la situation. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Le droit congolais de la consommation et de la concurrence, c'est l'intitulé de l'ouvrage du professeur Hilaire Kabuya, présenté ce week-end à l'Université officielle de Mbujimayi. Ce livre de 384 pages est le 4e ouvrage produit par cet auteur. L'ouvrage est destiné aux consommateurs pour qu'ils reconnaissent leurs droits et sachent comment les défendre. On l'écoute.
J'ai écrit ce livre d'abord pour attirer l'attention de vous tous consommateurs que vous avez des droits qui doivent être protégés. Le droit à la sécurité, c'est-à-dire les produits que vous prenez, est-ce qu'ils ne peuvent pas menacer votre vie? Ils ne peuvent pas menacer votre santé? Est-ce que vous avez l'information sur la qualité des produits que vous prenez? C'est un des droits du consommateur. Vous avez le droit à l'environnement sain. La deuxième partie de mon livre, c'est le droit de la concurrence. Les concurrents
ce sont des fournisseurs. C'est Vodacom, Airtel, Orange. Ils se battent pour avoir les grands marchés qui constituent les marchés. C'est vous, les consommateurs. Et quand ils se font la concurrence, quelqu'un peut avoir un mauvais produit, il y fait une publicité mensongère pour vous attirer et vous vendre ce mauvais produit-là. Et donc, la consommation et la concurrence vont de pair. Pour qu'un consommateur connaisse ses droits, il doit d'abord comprendre comment fonctionne la concurrence et quelles sont les pratiques anticoncurrentielles.
Actualité internationale.
La marine tunisienne a secouru ce week-end 178 migrants des différentes nationalités qui tentaient de traverser la Méditerranée pour rallier l'Europe depuis la Libye, a annoncé hier dimanche après-midi le ministre de la Défense nationale. Dans un communiqué, ce ministère dit avoir récupéré des corps des deux autres migrants lors des trois opérations de sauvetage au large de la côte sud du pays. Le président sud-africain a annoncé hier dimanche des nouvelles restrictions dans le pays le plus touché du continent pour faire face à la hausse des contaminations au coronavirus provoquées par le très contagieux variant Delta. Dans une allocution télévisée, Cyril Ramaphosa a affirmé que son pays, qui subit ce jour-ci une troisième vague, est confronté à une résurgence massive des contaminations au coronavirus. Il parlait d'un tableau très noir jamais vécu auparavant.
L'invité.
La RDC célèbre ce mercredi 30 juin 2021, 61 ans d'indépendance. Depuis ce lundi matin, l'antenne de Radio Okapi se met à l'heure de cet événement. Pendant toute la semaine, vous suivrez des productions en rapport avec ce rendez-vous historique du pays. C'est dans ces cadres que nous recevons ce midi Léon Moutidjima, 80 ans. Il avait 21 ans en 1960 en territoire de Walungu, au sud Kivu, où il avait participé à la célébration de l'accession du pays à l'indépendance. Il est interrogé par Emmanuel Elmejo-Kabedi.
Monsieur Léon Moutidjima, bonjour.
Bonjour, cher ami Emmanuel.
Nous voici au 30 juin 2021. Au 30 juin 1960, vous aviez quel âge et vous étiez où?
J'avais 21 ans. Et j'étais à Walungu, oui. Je travaillais à la chefferie d'Ngwéché comme secrétaire de chefferie.
Déjà 21 ans, secrétaire de chefferie, comment vous avez vécu les événements avant ou même pendant l'indépendance, la proclamation de l'indépendance du 30 juin 60?
Nous avions déjà préparé cette indépendance. Moi, j'étais dans le parti RECO et avec comme président Abraham Loanoa, qui finalement finira par passer après les élections comme président de l'Assemblée provinciale du Kivu, du Grand Kivu. Et moi-même, j'avais été élu. On avait dû tricher pour que j'aie 25 ans pour poser ma candidature à ces élections-là. C'est comme ça qu'officiellement, je suis né en 1935 au lieu de 1939.
Et alors, vous aviez préparé l'événement du 30 juin comment?
Bon, c'est-à-dire que nous avions sensibilisé la population pour lui dire que, bon, nous allions accéder à l'indépendance du pays.
Alors, secrétaire de chefferie, déjà en 60, dont vous avez travaillé sous l'administration belge.
Bon, oui, exactement, oui. J'ai commencé à travailler au mois de novembre 1959, juste quand j'ai quitté l'école.
Oui. Comment la chefferie était administrée cette fois-là?
Bon, il y avait... Le Mami était encore mineur. La chefferie était administrée par le régent Abraham Loanoa. Lui, il avait été jusqu'au diaconat. Mais avant d'être ordonné prêtre, bon, l'Ngwéché perdait le Mami Mouigirwa à Kabaré. Oui. Alors, ils ont cherché à trouver quelqu'un pour continuer à diriger cette chefferie.
C'est ainsi que... Et Léon secrétaire.
Oui, oui, je suis venu là pour faire le secrétariat pendant 2 ans.
OK.
De 59 à 61.
Alors, comment ça s'est passé, la date, le jour J du 30 juin 60?
Bon, c'était une belle cérémonie. Nous avons organisé des manifestations. Nous avions déjà construit le terrain de football de Walungu, qui avait coûté à la chefferie quelques 500 000 francs congolais à l'époque.
Ah, c'était le franc congolais?
Oui, c'était des francs congolais qui équivalaient au franc belge à l'époque.
C'était le Congo belge, voilà.
Oui, c'est ça. Oui, oui. Et donc, à l'indépendance, il y a eu beaucoup de manifestations sur ce terrain. tout le monde était heureux, bon, parce que bon, il y avait une autonomie de pouvoir se diriger soi-même et de prendre ses propres responsabilités, ce qui est très important.
Vous aviez hissé quel drapeau ce jour-là?
Nous avons hissé le... C'était un drapeau tricolore, je crois, hein, mais avec étoile au milieu.
Cérémonie.
Le premier drapeau, on l'a hissé très fort. Et j'ai encore une vieille photo qui montre ce drapeau tout seul flottant en l'air au-dessus du mât, en face des nombreuses collines d'Ingwéché. Un long mât de 6 mètres qui était monté, et ce drapeau flottait bien haut, bien haut, le 30 juin 1960.
Quelques jours après, quelques années après, comment était l'administration? Tu as continué
à... Bon, l'administration a continué. 2 ans après, en 1961, en novembre, j'ai quitté la chefferie pour rentrer dans une agro-industrielle où je suis resté 30 ans.
Il y avait encore des blancs partout ici, dans, la,
bon,
dans le Kivu?
Oui, ils étaient là. Ils ont, je dirais, fêté l'indépendance avec nous. Jusque 61, ils étaient encore là. Ils sont partis l'un après l'autre, tout doucement.
Oui.
Il n'y avait pas eu de brutalité, aucune manifestation d'hostilité.
Okay.
C'est ce qui s'est passé à Walungu, du moins.
Ils ont laissé des écoles, des hôpitaux, des infrastructures.
Bien sûr. Le Congolais mangeait à sa faim.
À cette période-là.
Oui, parce que bon, les agronomes encadraient les agriculteurs. L'élevage était bon, tout était soigné, le bétail se portait bien, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
D'autres acquis de l'indépendance?
Oui, le secteur minier aussi a enrichi les nations occidentales. Les Jacamines assurent 60% du budget national. Et le Congo fait gagner la guerre mondiale par l'Occident qui deviendra l'OTAN. Il y avait 17 000 km de routes praticables en toute saison. En toute saison.
Merci beaucoup, monsieur Léon Petit-Jumain.
Je vous remercie également, mon cher Emmanuel, d'avoir bien voulu m'écouter.
C'était l'invité de Radio Okapi, Léon Moutidjima, 80 ans, qui avait 21 ans en 1960, à l'accession du pays à l'indépendance. Il était interviewé par Emmanuel Elamejo Kabedi et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir écouté. Infiniment merci à Élise Chikota Mwamboui qui l'a coordonné sous la supervision de Pelle Kipelamondo. Retrouvez ce journal sur www.radiokapi.net et sur les différentes plateformes numériques de Radio Okapi.